de George Rodenbach, Le carillonneur. Première partie. Le rêve. La grande place de Bruges, ordinairement déserte, traversée par de rares passants, des enfants pauvres à la dérive, un peu de prêtres ou de béguines, s'imagea soudain de groupes indécis, d'îlots noirs tachant l'étendue grise. Des rassemblements se formaient. On avait fixé pour le premier lundi d'octobre, à 4 heures, le concours de carillonneurs. La fonction de carillonneur de la ville se trouvait vacante par le décès du vieux Baffon de Fosse, qui l'occupa avec honneur durant 20 années. Il y avait lieu d'y pourvoir aujourd'hui, selon la coutume, par un concours public où le peuple serait, pour ainsi dire, appelé à décider lui-même en acclamant par avance le vainqueur. C'est pourquoi on avait choisi le lundi, tout travail cessant à midi, ce jour-là de la semaine, qui de la sorte participait encore de la vacance du dimanche. Ainsi, le choix pourrait être vraiment populaire et unanime. N'était-il pas juste que le carillonneur fût élu ainsi? Le carillon, en effet, est la musique du peuple. Ailleurs, dans les capitales ardentes, c'est le feu d'artifice qui constitue la fête publique, le don féerique dont s'exaltent les âmes. En ces Flandres méditatives, parmi les brumes humides et rebelles au prestige du feu, le carillon en tient lieu. C'est un feu d'artifice qu'on écoute. Gerbe, fusée, lueur, 1000 étincelles de son dont l'air aussi se colore, pour des yeux visionnaires que Louis avertit. Donc, une foule s'agglomérait. De toutes les rues avoisinantes, la rue Hollène, la rue Flamande, étaient venues des bandes qui s'annexaient sans cesse aux groupes antérieurs. Le soleil déclinait déjà par ces journées abrégées du commencement de l'automne. Il en descendit jusque sur la place une lumière ambrée, plus douce, d'être finissante. En face, le sombre bâtiment des Halles, son quadrilatère sévère, ses murs mystérieux, comme faits avec des pans de nuit, s'illuminèrent d'une patine chaude. Quant au beffroi, qui surplombe, plus haut et surgit au-dessus des toits, il pouvait ainsi recevoir encore la pleine clarté du couchant, face à face avec lui. Il en apparaissait, sur la base noire, tout rose et comme fardé. La lumière courait, jouait, coulait. Elle modelait les colonnettes, l'arc ogival des fenêtres, les tourelles ajourées, tous les accidents de la pierre. Puis ailleurs, ruisselait en nappes agiles, en claires étoffes de drapeaux. Elle en faisait plus mouvementée et comme fluide la tour massive, qui, d'ordinaire, étage ces blocs obscurs où il y a des ténèbres, du sang, de la lie et de la poussière de siècle. Maintenant, le couchant s'y mirait comme dans une eau, et le cadran à mi-hauteur, rond et tout en or, avait l'air du soleil lui-même reflété. La foule entière tenait les yeux braqués sur ce cadran, attendant l'heure, mais avec calme et presque en silence. Une foule est la somme de la faculté qui prédomine dans chacun. Or, dans chacun d'ici, la part du silence est la plus grande. Et puis on se tait volontiers quand on est dans l'attente. Pourtant, ceux de la ville et des faubourgs étaient accourus, les pauvres comme les riches, pour assister au concours. Les fenêtres étaient garnies de curieux, et aussi les gradins qui flanquent de fins escaliers les pignons de la grande place. Celle-ci apparaissait bariolée, joliment frémissante. Le lion en or de l'hôtel de Bouchout étincelait, tandis que la vieille façade où il s'accroche carrait ses 4 étages, ses briques enluminées. En face, le palais du gouverneur opposait ses lions de pierre, gardiens héraldique du vieux style flamand, qui qui avait reconstruit là une belle harmonie de pierres grises, de vitraux glauques et de sveltes pinacles. Sur le palier de l'escalier gothique se tenait, couvert d'un dais cramoisi, le gouverneur de la province, les échevins en tenue officielle et chamarrure, afin d'honorer cette cérémonie liée aux plus antiques et chers souvenirs de la Flandre. L'heure du concours approcha. À coups sonores, le bourdon du beffroi ne cessait pas de sonner. C'était la cloche du triomphe, celle des deuils, des gloires et des dimanches, qui, fondue en 1680, habita là-haut depuis lors, et dont le battement, comme celui d'un grand cœur rouge, marqua toutes les pulsations du temps dans les rouages de la tour. Depuis une heure, le bourdon annonçait aux horizons, convoquait. Brusquement, les coups se ralentirent, s'espacèrent. Un grand silence. Les aiguilles du cadran, qui se cherchent, se fuient tout le jour, s'ouvraient maintenant en compas. Encore une ou deux minutes, et l'heure de 4 heures s'accomplissait. Alors, dans le vide du bourdon tue, une aubade indécise, un gazouillis, un éveil de nid chanta, vagues arpèges de mélodie. La foule écouta. Quelques-uns croyaient que s'ouvrait déjà le concours, mais ce n'était que le jeu mécanique du carillon, produit par le cylindre de cuivre soulevant les marteaux, et qui agit comme dans le système des boîtes à musique. De plus, le carillon obéit aussi à un clavier, et c'est ce jeu-ci qu'on allait bientôt entendre, quand les musiciens entreraient en lutte. En attendant, le carillon joua automatiquement le prélude qui est habituel avant la sonnerie de chaque heure. Broderie aérienne, bouquet de sons jetés en adieu au temps qui part. Car n'est-ce pas la raison même du carillon ? Faire un peu de joie pour atténuer la mélancolie de l'heure qui meurt ensuite. 4 coups venaient de marteler l'horizon. Des coups larges, graves, distants l'un de l'autre, irrémédiables, et qui semblaient clouer une croix dans l'air. 4 heures, c'était l'heure fixée pour le concours. La foule eut des remous, une petite impatience se propagea. Soudain, à la fenêtre à balcon des halles, non loin de la console sculptée de feuillages et têtes de bélier, où songe la statue de la Vierge, cette même fenêtre où se proclamèrent de tout temps les lois, ordonnances, traités de paix et règlements de la commune, apparut un héros d'armes vêtu de pourpre qui, dans un porte-voix, déclara ouvert le concours de carillonneurs en la ville de Bruges. Eut l'air de vaticiner à l'avenir. La foule se tut, cargua toutes ses rumeurs. Quelques-uns seulement savaient des détails, que les carillonneurs de Malines, d'Audenarde, des Rantais étaient inscrits. D'autres encore, qui peut-être se récuseraient, sans compter l'imprévu, car on avait le droit de se faire inscrire jusqu'à la dernière minute. Après la publication du haut de la fenêtre à balcon, le bourdon sonna précipitamment 3 coups, comme 3 coups d'Angélus. C'était l'annonce de l'entrée en lice d'un concurrent. Aussitôt, en effet, le carillon s'ébranla, un peu confusément. Ce n'était plus le jeu automatique de tantôt. On sentait maintenant un jeu libre et capricieux, l'intervention d'un homme qui réveille les cloches une à une, les bouscule, les gourmande, les caresse, les conduit devant lui en troupeau. Le départ n'était point maladroit, mais une débandade suivit, une cloche eut l'air de tomber, d'autres s'enfuirent ou se refusèrent. Un second morceau fut mieux exécuté, mais le choix en était malheureux. C'était un pot pourri des airs quelconques cousus ensemble, habits d'arlequin, musique qui avait l'air de faire du trapèze au haut de la tour. Le peuple n'y comprit rien et resta froid. De rares applaudissements éclatèrent, quand il cessa, firent une minute leur bruit de battoir au bord de l'eau. De nouveau, après un intervalle, le bourdon sonna ses trois coups d'Angélus. Le second concurrent s'entendit. Il semblait posséder davantage le maniement de l'instrument, mais il essouffla vite les cloches à vouloir leur faire rendre les rugissements de la Marseillaise ou les bibliques mélopées du « God save the Queen ». Ici encore, l'effet fut médiocre, et le peuple, déçu, commençait à croire qu'on ne remplacerait jamais le vieux Bafontefos, qui tant d'années avait fait sonner le carillon comme il convient. L'épreuve suivante fut plus pénible. Le concurrent eut la malencontreuse idée de jouer des refrains d'opérette et de café-concert, d'un mouvement saccadé et preste. Les cloches sautaient, criaient, riaient comme chatouillées, trébuchaient, avaient l'air un peu ivres et folles. On aurait dit qu'elles relevaient leurs jupes de bronze, se déhanchaient en un cancan cynique. Le peuple fut d'abord surpris, puis se fâcha de ce qu'on faisait faire et dire à ces bonnes cloches séculaires. Il eut l'impression d'un sacrilège. Des huées montèrent vers la tour, en belles rafales. Deux concurrents encore inscrits furent pris de peur alors et renoncèrent. Le concours, décidément, avortait. Faudrait-il ajourner la nomination du nouveau carillonneur ? Auparavant, le héros d'armes fut chargé de comparaître à nouveau et de demander s'il n'y avait plus personne qui désirât concourir. Dès l'annonce faite, on entendit un cri, tandis qu'un geste s'ébauchait au premier rang de la foule massée devant les halles. Un instant après, la vieille porte faisait grincer ses gonds, un homme entra. La foule frémit, s'inquiéta, colporta le bruit d'on ne sait quoi. Personne ne savait quelque chose. Qu'allait-il se passer? Est-ce que le concours était fini? On n'allait pas sans doute nommer un seul des concurrents entendus. Est-ce qu'un nouveau par hasard surgirait? Chacun s'informait, se haussait, bousculait des voisins, regardait vers la fenêtre à balcon et les plateformes du beffroi, où on ne savait si c'était des silhouettes humaines ou des corbeaux qui se déplaçaient. Bientôt, le bourdon sonna encore une fois ses trois coups d'Angélus. Signe prémonitoire, salve traditionnelle qui annonçait un nouveau carillonneur. D'avoir attendu et désespéré, la foule écouta mieux, surtout que les cloches, cette fois, tintant doux, demandaient plus de silence. Cela préluda en sourdine quelque chose de fondu où on ne distinguait plus des cloches alternant ou se mêlant, mais un concert de bronze unifié comme très lointain et très âgé. Musique en rêve, elle ne venait pas de la tour, mais de bien plus loin, du fond du ciel et du fond des temps. Ce carillonneur avait eu l'idée de jouer des Noëls anciens, Noëls flamands, nés dans la race, et qui sont des miroirs où elle se reconnaît. C'était très grave et un peu triste, comme tout ce qui a traversé des siècles. C'était très vieux, et pourtant compris des enfants. C'était très reculé, très vague, comme se passant aux confins du silence, et pourtant recueilli par chacun, descendu dans chacun. Les yeux de beaucoup se brouillèrent, sans qu'on sût si c'était de leurs larmes ou de ces gouttes de son, fines et grises, qui y entraient. Le peuple entier tressaillit, taciturne et réfléchi. Il avait senti se dérouler dans l'air la trame obscure de son songe et l'aima de rester informulée. Quand la série des vieux Noëls cessa, la foule resta un moment en silence, comme si elle avait reconduit en pensée, dans l'éternité, les bonnes aïeules que furent les cloches cette fois, venues leur chanter des histoires du passé et des contes embrouillés que chacun peut achever à sa guise. Puis il y eut un départ de cris, une détente d'émotions, des ramifications de joie qui s'élancèrent, gagnèrent les étages, grimpèrent à la tour comme un lierre noir, vinrent assaillir le nouveau carillonneur. Celui-ci s'était improvisé concurrent, par hasard, à la dernière minute. Navré de la médiocrité du concours, il monta tout à coup au beffroi, dans la chambre de verre, où il avait parfois visité son ami, le vieux Baffone de Fosse. Est-ce lui maintenant qui allait le remplacer? Que faire? Il s'agissait d'exécuter un second morceau. Les Noëls, ça avait été les petites vieilles des chemins de l'histoire, les Béguines à genoux au bord de l'air. Avec elles, le peuple qui attendait là-bas, tout en bas, s'en était retourné au meilleur temps de sa gloire, au cimetière de son passé. Il était prêt maintenant à l'héroïsme. L'homme s'épongea le front, s'assit devant le clavier, troublant comme des orgues d'église, avec des pédales pour les grandes cloches, tandis que les petites sont actionnées par des tiges de fer montant des touches, sorte de métier à tisser de la musique. Le carillon recommença à tinter. On entendit le chant du Lion de Flandre, un vieux chant populaire su par tous, anonyme comme la tour elle-même, comme tout ce qui résume une race. Les cloches séculaires rajeunirent, proclamèrent la vaillance et l'immortalité de la Flandre. C'était vraiment l'appel d'un lion, dont la gueule, comme celui de l'écriture, serait toute pleine d'abeilles. Jadis, un lion de pierre héraldique surmontait le beffroi. Il sembla qu'il allait revenir avec ce chant aussi vieux que lui et sortir du beffroi comme d'un antre. Sur la grande place, dans le couchant qui enfiévrait ses derniers feux, le lion en or de l'hôtel de Bouchout parut étinceler, vivre, tandis qu'en face, les lions de pierre de l'hôtel provincial agrandirent leur ombre sur la foule. Flandre aux lions ! C'était le cri de gloire des gildes et des corporations triomphantes. On le croyait décidément enfoui au coffre bardé de fer où se conservaient les chartes et privilèges des anciens princes, dans une des salles de la tour. Et maintenant, le chant ressuscitait. « Flandre aux lions !» Un chant rythmique, comme un peuple qui marche, scandé en mélopée, guerrier et humain à la fois, tel un visage dans une armure. La foule écouta, haletante. On ne savait même plus si c'était le carillon qui tintait, et par quel miracle les 49 cloches du beffroi ne faisaient plus qu'un chant d'un peuple unanime, où les clochettes argentines, les lourdes cloches oscillantes, les antiques bourdons, apparurent vraiment des enfants, des femmes en mante, des soldats héroïques, s'en revenant vers la ville qu'on croyait morte. La foule ne s'y trompa point, et comme si elle voulait aller au devant de ce cortège du passé que le chant incarnait, elle entonna à son tour le noble hymne. Ce fut une contagion sur la grande place entière. Chaque bouche chanta. Le chant des hommes alla dans l'air à la rencontre du chant des cloches, et l'âme de la Flandre plana, comme le soleil entre le ciel et la mer. Une ivresse d'épopée avait soulevé un moment cette foule taciturne, habituée au silence, résignée à la désuétude de la ville, des canaux inertes, des rues grises, et qui, dès longtemps, goûtait la mélancolique douceur du renoncement. Pourtant, un vieil héroïsme sommeillait dans la race, des étincelles habitaient l'inertie des pierres. Soudain, le sang dans toutes les veines, avait couru plus vite. L'enthousiasme éclata, instantané, universel, vibrant et fou, dès que la musique cessa. Cris, clameurs, mains levées, gestes chavirants au-dessus des têtes, appels, ourvari. Oh, le merveilleux carillonneur! Ça avait été le héros providentiel des romans de chevalerie, arrivé le dernier sous une armure impénétrable et qui est vainqueur du tournoi. Qui était-il, cet homme inattendu, qui avait surgi à la dernière minute quand on croyait déjà le concours sans résultat après la médiocre épreuve des premiers carillonneurs? Quelques-uns seulement, les plus voisins de la tour, avaient pu l'apercevoir quand il s'engouffra sous la porte. Aucun ne le connaissait et n'avait transmis son identité. Voici que le héros d'armes, vêtu de pourpre, reparut à la fenêtre à balcon. Et dans son porte-voix sonore, il cria « Yoris Borlut !» C'était le nom du vainqueur. « Yoris Borlut !» Le nom tomba, dégringola de la tour sur les premiers rangs des assistants, puis ricocha, vola, s'envola, propagé de proche en proche, de vague en vague, comme une mouette sur la mer. Quelques minutes après, la porte du bâtiment des Halles s'ouvrit large. C'était le héros rouge, précédant l'homme, dont le nom naissait à ce moment sur chaque bouche. Le héros écarta la foule, fraya un passage pour conduire le carillonneur victorieux jusqu'à l'escalier du palais où se tenaient les autorités de la ville qui lui donneraient l'investiture. Tous reculèrent, comme devant quelqu'un de plus grand qu'eux, comme devant l'évêque quand il porte dans la procession la relique du Saint-Sang. Yoris Borlut! Et le nom continuait de voler sur la grande place, rebondissant, cogné aux façades, lancé aux fenêtres et jusque sur les pignons, répercuté à l'infini, déjà familier à tous, comme s'il s'était écrit de lui-même dans l'air nu. Cependant, le vainqueur, arrivé sur le palier de l'escalier gothique, fut complimenté par le gouverneur, les échevins, qui, ratifiant l'unanimité populaire, venait de signer devant lui sa nomination à l'emploi de carillonneur de la ville. Puis ils lui remirent, comme prix de sa victoire et signe de sa charge, une clé ornementée de ferronneries et de lourdes arabesques en cuivre, une clé solennelle comme une crosse. C'était la clé du beffroi, où désormais il aurait le privilège d'entrer à sa guise, comme s'il y habitait ou qu'il en fût le maître. Or, le vainqueur, en recevant ce pittoresque don, pris soudain de la mélancolie qui suit toute fête, se sentit seul et inquiet d'on ne sait quoi. Ce fut comme s'il venait de prendre en main la clé de son tombeau. Chapitre 2. Le soir du concours, Borlut alla, vers 9 heures, chez le vieil antiquaire Van Eul, son ami, comme il en avait l'habitude chaque lundi. Celui-ci habitait, rue des Corroyeurs Noirs, une antique demeure à double pignon, dont la façade en briques s'historiait, au-dessus de la porte, d'un bas-relief représentant un navire, aux voiles gonflées comme des seins. Ça avait été autrefois le siège de la Corporation des Bateliers à Bruges, et la date de 1578, authentique dans un cartouche, affirmait sa noble ancienneté. La porte, les serrures, les vitraux, tout avait été savamment reconstitué selon les vieux styles, tandis que les briques furent mises à nu, rejointoyées à neuf, avec, çà et là, la patine des années laissée intacte sur les pierres. Cette précieuse restauration, c'est Borlut qu'il avait exécutée pour son ami, à ses débuts pour ainsi dire, et sortant à peine de l'académie où il avait fait ses études d'architecte. Ce fut une leçon publique, une leçon de beauté, donnée à ceux qui, possédant de vieilles demeures, les laissaient s'effriter irréparablement ou les démolissait pour rebâtir de banales maisons modernes. Van Eul, lui, s'enorgueillissait de son logis au visage de passé. C'est bien ce qu'il fallait pour ses vieux meubles, ses curiosités anciennes, étant moins antiquaire et marchand que collectionneur, vendant seulement si on lui offrait de gros prix et que cela lui convint. Fantasque, ayant droit de l'être, puisqu'il possédait du bien. Il vivait là avec ses deux filles, resté veuf depuis longtemps. C'est par hasard, et peu à peu, qu'il était devenu antiquaire. Au début, il se bornait à aimer, à recueillir les vieilles choses locales, les faïences d'un indigo profond qui servait de cruche pour la bière, les armoires de verre abritant quelques madones de bois colorié, vêtues de soie et de point de Bruges, les bijoux, colliers, oiseaux de tir à l'arc des Gildes du XVe siècle, les bahuts à panneaux bombés de la Renaissance flamande, toutes les épaves, intactes ou cicatrisées, des récents siècles, tout ce qui venait témoigner dans le présent de la riche patrie ancienne. Mais il avait acheté moins pour revendre et faire le commerce que par amour de la Flandre et de la vieille vie flamande. Or, les âmes, pareilles, se reconnaissent vite au milieu de la foule, et s'assemblent. Il n'existe jamais, dans un temps si exceptionnel qu'on puisse être, une âme seule de son espèce. Car il faut que tout idéal s'accomplisse, que toute pensée se formule. C'est pourquoi la destinée s'assure de plusieurs qui soient d'accord, afin que l'un, à défaut de l'autre, arrive jusqu'à la réalisation. Il y a toujours quelques âmes ensemencées à la fois pour que fleurisse, en l'une du moins, le lys immanquable. Le vieil antiquaire était un flamand passionné de sa Flandre. Borluthe aussi, que son art d'architecte avait mené à l'étude et à l'amour de cette Bruges unique, qui apparaissait tout entière un poème de pierre, une châsse enluminée. Borluthe s'était voué à elle, à l'embellir, à lui restituer toute sa pureté de style. Dès le début, il comprit ainsi sa vocation et sa mission. Il était donc naturel qu'il eût rencontré Van Hul et se fût lié avec lui. D'autres bientôt s'étaient joints, Farazijn, un avocat qui serait le porte-parole de la cause, Bartholoméus, un peintre fervent de l'art flamand. Ainsi, le même idéal suscita leur réunion hebdomadaire qui avait lieu maintenant tous les lundis, le soir, chez le vieil antiquaire. Ils venaient là s'entretenir de la Flandre comme s'il y avait quelque chose de changé ou d'imminent pour elle. C'était des souvenirs, des enthousiasmes, des projets. De penser la même chose, il leur semblait posséder ensemble un secret. Ils en avaient une joie et un émoi. C'était comme s'ils avaient conspiré. Exaltation vaine de désœuvrés et de solitaires qui, dans cette vie grise, se donnaient l'illusion de l'action et de jouer des rôles. Ils se leurraient avec des paroles et des mirages. Pourtant, leur patriotisme, d'être naïf, était chaleureux. Ils rêvaient pour la Flandre et pour Bruges, chacun à sa manière, une beauté nouvelle. Ce soir-là, il y eut grande allégresse chez Van Hul, à cause du triomphe de Borluthe. Ça avait été un après-midi d'art et de gloire, où la ville sembla renaître, fut celle d'autrefois, avec son peuple massé sur la place publique, au pied du beffroi, dont l'ombre était assez vaste pour le parquet tout entier. Quand Borluthe arriva chez l'antiquaire, ses amis lui pressèrent les mains, l'étreignirent contre leur poitrine dans une effusion silencieuse. Il avait bien mérité de la Flandre, car tous avaient compris son intervention inopinée. « Oui, fit Borluthe, quand j'ai entendu au carillon leurs airs modernes et leur nomma l'un d'eux, qui pouvait officiellement verser du haut du beffroi cette musique vile, en salir nos canaux, nos églises, nos visages. Alors, j'eus la pensée instantanément de concourir pour évincer les autres. Je connaissais bien le carillon, ayant parfois joué les jours où j'allais voir le vieux Baffon de Fosse. Et puis, quand on sait toucher les orgues, d'ailleurs, J'ignore presque comment j'ai fait. J'étais fou, inspiré, transporté. Le plus admirable, fit Bartholoméus, ce fut d'avoir joué nos Noëls anciens. J'ai eu des larmes aux yeux. C'était si doux, si doux, si lointain, si lointain. Les hommes doivent réentendre ainsi parfois les chansons de leurs nourrices. Pharazayn dit « Le peuple tout entier fut ému, parce que c'était en effet la voix de son passé. Ah, ce bon peuple de Flandre, quelles énergies sont encore en lui, qui éclateront sitôt qu'il aura repris conscience de lui-même. La patrie renaîtra quand de plus en plus elle aura restauré sa langue. » Alors, Pharazayn s'exalta, développa tout un vaste plan de renaissance et d'autonomie. Il faut qu'en Flandre, on parle flamand, non seulement parmi le peuple, mais dans les assemblées, en justice. Que tous les actes, pièces officielles, jugements, noms de rue, monnaie, timbres, que tout soit flamand, puisque nous sommes en Flandre, puisque le français est le parler de France et que la domination a cessé. Van Hul écoutait, sans rien dire, taciturne comme à l'ordinaire. Mais une flamme courte, intermittente, souffrait dans ses yeux stagnants. Ses projets de branle-bas l'inquiétaient. Il eût préféré un patriotisme plus intime et plus silencieux. Un culte pour Bruges, comme pour une morte dont un peu d'amis parlent le tombeau. Bartholoméus objecta. « Oui, mais comment effacer tous les vainqueurs ?»« Aucun ne fut le vainqueur, » riposta Pharazayn. « Qu'on rétablisse ici le flamand, et la race est neuve, intacte, telle qu'au Moyen-Âge. L'Espagne elle-même n'a rien pu sur l'esprit. Elle a laissé quelque chose uniquement dans le sang. » Sa conquête fut un viol. Il n'en est résulté que des enfants qui, en Flandre, eurent ses cheveux noirs, sa chair ambrée. On en retrouve encore jusqu'aujourd'hui. Pharazayn s'était tourné, en disant cela, vers une des filles de l'antiquaire. Tous sourirent. Barbe, en effet, offrait un de ces types étrangers, violemment brune, avec la bouche rouge comme un piment dans le visage mat, cependant que les yeux étaient demeurés de la race originelle, couleur de l'eau des canaux. Elle écoutait la discussion, intéressée, un peu fiévreuse, remplissant de bière blonde les pintes de grès, tandis que, à côté d'elle, sa sœur Godelive, indifférente, eût-on dit, et l'esprit ailleurs, accompagnait la causerie bruyante du ronronnement de son carreau de dentelière. Le peintre les avait regardés. Certes, fit-il, l'une c'est la Flandre, l'autre c'est l'Espagne. Mais elles ont la même âme, riposta Pharazayn. Tout le monde en Flandre est pareil. L'Espagne n'a pu atteindre l'âme. Qu'est-ce qu'elle nous a laissé? Quelques noms de rues, comme à Bruges, la rue des Espagnols, des enseignes de cabaret. Et ça et là, une maison espagnole avec une façade à pignons, des vitres glauques, un perron d'où la mort souvent descendait. Et c'est tout. Bruges est intacte, vous dis-je. Ce n'est pas comme Anvers, qui, elle, ne fut pas violée par son vainqueur, mais l'a aimée. Bruges est l'âme flamande intégrale. Anvers est l'âme flamande occupée par les Espagnols. Bruges et l'âme flamande restée à l'ombre. Anvers est l'âme flamande mise au soleil étranger. Anvers, dès lors, et maintenant encore, fut plus espagnole que flamande. Son emphase, sa morgue, sa couleur, sa pompe sont de l'Espagne. Et même ses corbillards, termina-t-il, couverts d'or et comme des châsses. Tous acquiescèrent. Tandis que Pharazayn parlait, il était vraiment la voix de leurs pensées, et il avait, en discourant, un lyrisme contagieux, un grand geste, qui semblait chaque fois cueillir quelque chose tout à coup mûr en eux. « Il n'y a, Du reste, ajouta Bartholoméus, qu'à comparer le génie de leur peintre. Bruges eut Memling, qui est un ange. Anvers eut Rubens, qui est un ambassadeur. Et leur tour, donc, renforça Borlute. Rien ne renseigne plus exactement sur un peuple que ses tours. Il les fait à son image et à sa ressemblance. Or, le clocher de Saint-Sauveur à Bruges est sévère, on dirait une citadelle de Dieu. Il n'a voulu être que de la foi, superposant ses blocs comme des actes de foi. Au contraire, la tour d'Anvers est légère, ajourée, coquette, un peu espagnole aussi, avec sa mantille de pierre dont elle se coiffe sur l'horizon. Bartholoméus intervint pour faire une réflexion juste. Quoi qu'il en soit de l'Espagne, même à Anvers, qu'elle a vicié en partie, partout en Flandre, de la mer à l'Escaut, il est heureux que l'Espagne soit venue, fût-ce au prix de l'Inquisition, des autodafés, des tenailles, du sang et des larmes qui coulèrent. L'Espagne a gardé la Flandre au catholicisme, elle l'a sauvée de la Réforme. Car sans elle, la Flandre serait devenue protestante, comme la Zélande, la province d'Utrecht, tous les Pays-Bas. Et alors, la Flandre n'eût plus été la Flandre. Soit, dit Pharazine, mais tous les couvents d'aujourd'hui sont un autre péril. Nous avons ici des ordres religieux comme nulle part. Des capucins, des carmes déchaussés, des dominicains, des séminaristes, sans compter le clergé séculier. Et tant d'ordres pour les femmes. Béguines, pauvres clercs, carmélites, rédemptoristines, dames de Saint-André, sœurs de charité, petites sœurs des pauvres, dames anglaises, sœurs noires de Bethel. C'est ce qui explique en partie qu'il y ait dans la population 10 000 femmes de plus, ce qui n'existe dans aucune ville du monde. Chasteté signifie stérilité. Et ces 10 000 religieuses ont pour corollaire nos 10 000 indigents que le bureau de bienfaisance entretient. Ce n'est pas ainsi que Bruges surmontera sa déchéance et redeviendra grande. Borlute intervint. Sa voix était grave. On sentait qu'il croyait, d'une façon très chère et très jalouse, à ce qu'il commençait de dire. « N'est-ce pas ainsi qu'elle est grande ? » répliqua-t-il à son ami. Sa beauté est dans le silence, et sa gloire de ne plus appartenir qu'à un peu de prêtres et de pauvres, c'est-à-dire à ceux qui sont le plus purs, puisqu'ils ont renoncé. Sa meilleure destinée consiste à être quelque chose qui se survit. « Non !» riposta Pharazine. « Il vaudrait mieux lui rendre la vie. Il n'y a que la vie qui vaille. Il faut toujours vouloir la vie et aimer la vie. » Borlute reprit d'une voix d'apôtre. « Ne peut-on pas aimer aussi la mort, aimer la douleur ? La beauté de la douleur est supérieure à la beauté de la vie. C'est la beauté de Bruges, grande gloire finie, dernier sourire immobile. Tout s'est recueilli alentour, les eaux sont inertes, les maisons sont closes, les cloches chuchotent dans la brume. Voilà le secret de son charme. Pourquoi vouloir qu'elle redevienne comme les autres? Elle est unique. On marche dans elle comme dans un souvenir. » Tous se turent. Il se faisait tard. L'évocation émue de Borlute avait touché les âmes. Sa voix venait d'être la cloche qui sonne un accomplissement irréparable. Et maintenant, dans la chambre, il en survivait comme un sillage, l'écho d'un son qui chemine et ne veut pas cesser. Il semblait que la ville, pour avoir été évoquée, avait fait entrer tout son silence en eux. Même Barbe et Godelive, se levant pour remplir une dernière fois de bière blonde les pintes vides, n'osaient plus faire de bruit, embrumaient leurs pas. Chacun regagna pensif sa demeure, heureux de la soirée où ils communièrent ensemble en un même amour de Bruges. Ils avaient parlé de la ville comme d'une religion.